Deutsche Welle Magazine Santé. Le paludisme frappe toujours, toutes les minutes d'après l'OMS. Un enfant africain meurt à cause de cette maladie transmise, on le sait, par la piqûre du moustique Anopheles. Pourtant, la mortalité baisse et cela est dû entre autres à la protection des moustiquaires. Encore faut-il bien s'en servir, comme nous le verrons dans un reportage en provenance du Congo. Et puis nous évoquerons les soins de santé dans les périodes et les régions de conflit. Comment les médecins, les infirmières, bref, le personnel soignant peut-il travailler dans ces conditions? Des explications avec le CICR. Vous êtes les bienvenus à cette émission. Au micro, Elisabeth Cadeau. En République démocratique du Congo, le Programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec d'autres partenaires, encourage l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides par les familles. Pourtant, malheureusement, ces moustiquaires imprégnés, qui sont vendus dans les pharmacies ou distribués gratuitement, sont parfois utilisés à d'autres fins par la population congolaise. Notre correspondant Salé Mwanami Longo fait le point pour nous des avantages de l'utilisation des moustiquaires, mais aussi des difficultés concrètes rencontrées dans son usage.
Plus de 4 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués dans la ville de Kinshasa dans le cadre de la lutte contre le paludisme en RDC. Avec l'appui du Fonds mondial, l'Association de santé familiale ASF et le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP ont mené pendant plusieurs jours la campagne de sensibilisation sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Dénommée « Pour un Congo sans paludisme », cette campagne a connu quelques difficultés. Kali Makulu est coordonnateur provincial pour le programme de lutte contre la malaria à l'ASF.
La plus grande difficulté, c'est d'abord le nombre de moustiquaires que devait avoir chaque ménage. Donc, la population confondait le nombre de personnes par ménage au nombre de moustiquaires qu'elle devait avoir. Elle pensait que si vous êtes 10, vous avez droit à 10 moustiquaires. Et donc ça a été un problème. Il y a des gens qui n'avaient pas été dénombrés. C'est-à-dire, au moment où on faisait les dénombrements, parce que c'était les porte-à-porte, beaucoup de gens, ils travaillent toute la journée, ils sont au boulot. Et donc, la maison, elle est fermée. Les enquêteurs passent, ils repassent, ils ne trouvent personne. Et donc, ils ne les dénombrent pas. Il y a des cas de gens qui ont deux macarons qui n'ont pas été servis. Mais il y a d'autres cas aussi où des ménages qui ont été omis pendant les dénombrements. Et c'est comme ça que nous sommes en train de voir comment étudier, comment les récupérer.
Quels sont les avantages de dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides? Docteur Albert Lukaku, directeur adjoint du Programme national de lutte contre le paludisme.
Il est important de dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides puisque nous savons que nous avons la pathologie, donc la maladie que nous appelons la malaria. C'est la malaria qui est une des causes de morbidité et de mortalité au niveau pays. Donc quand on utilise la moustiquaire imprégnée d'insecticides, elle est là pour nous protéger contre le piqûre, pratiquement des moustiques qui transmettent cette fameuse maladie.
Parmi les 5 interventions prioritaires retenues par le gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre le paludisme en RDC, figure l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Mais la plupart des gens sont réticents à l'usage des moustiquaires, à l'instar de ces jeunes quinois.
Je m'appelle Dominique Ilunga. Moi-même, personnellement, je ne dors pas sous la moustiquaire imprégnée, mais j'en ai bénéficié. Je suis bénéficiaire de ces moustiquaires. J'en ai 8 à la maison. Mais mes enfants, tous, madame, mon épouse, dorment dans les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Moi, je préfère me coucher par terre. Avec les canicules qu'on a ici en RDC, ça me permet de bien dormir.
Je m'appelle Fina.
Est-ce que tu dors sous la moustiquaire imprégnée?
Non.
Pourquoi?
Bon, parce que j'attends l'étouffement, je ne suis pas habituée, c'est ça.
Je m'appelle Alain Bikay. Je n'arrive pas à utiliser cela chez moi parce que étouffement, tellement qu'on n'a pas d'électricité chaque fois. Il n'y a pas moyen d'utiliser le ventilateur. Aller dormir sous moustiquaire, je n'arrive pas, tellement que ça chauffe, je n'arrive pas à dormir sous la moustiquaire.
Parfois, avant de dormir sous la moustiquaire, il y a des moustiques qui nous piquent tout au long de la journée. Mais le docteur Lukaku précise le moment propice de la transmission de la maladie.
D'une manière générale, c'est l'anophèle femelle qui transmet pratiquement la malaria. Et l'anophèle femelle a un certain comportement aussi. L'anophèle femelle pique généralement aux environs, donc à partir de 23h, soit de minuit jusqu'à 5h du matin. Et pendant cette période-là, je pense que les enfants sont déjà au lit.
Malgré la gratuité des moustiquaires imprégnés d'insecticides, d'autres préjugés rendent difficile la campagne de lutte contre le paludisme en RDC, comme nous dit Kali Makulu de l'ASF.
Par rapport à l'utilisation, le relais communautaire, donc les agents de santé qui étaient commis à cette tâche, avaient la recommandation ou le devoir de pouvoir sensibiliser la population comment on utilise la moustiquaire. Ça, c'est de un. Et dans chaque site de distribution, il y avait aussi un mobilisateur qui avait la tâche d'expliquer, de démontrer, si vous voulez, comment utiliser la moustiquaire. Et ceux qui utilisent la moustiquaire pour la pêche, malheureusement, c'est un usage abusif. Nous les décourageons. Que la moustiquaire a été vilipendée. Il y a des gens qui ont lancé des folles rumeurs pour dire que non, c'était un poison qui venait je ne sais d'où. Quand cela ne tienne, nous continuons à travailler, nous continuons à sensibiliser, surtout les femmes aussi lors des consultations prénatales, on informe pour bien utiliser la moustiquaire.
Rappelons que le paludisme reste la première cause de mortalité et de morbidité, surtout chez les jeunes enfants de moins de 5 ans. Et l'assainissement du milieu reste la meilleure façon de lutter contre les moustiques. Salé Mwanamilongo à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Comment prodiguer des soins de santé dans des zones de conflit? Quelles sont les menaces pour les patients et les personnels de santé et comment y faire face? Un atelier vient d'avoir lieu à Pretoria, en Afrique du Sud, sur ce thème. Il était organisé par le département des relations internationales et de la coopération du côté sud-africain et le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, de l'autre. Pour nous en parler, Marie-Servane Desjonker, en charge des soins pour les pays d'Afrique centrale et australe au CICR. Tout d'abord, nous lui avons demandé si elle avait eu connaissance d'actes de violence.
Au niveau des attaques contre le personnel médical ou les structures de santé, nous avons bien sûr un grand nombre d'incidents qui se passent en Afrique centrale, par exemple. Nous avons aujourd'hui l'exemple tragique de la République centrafricaine où nous avons encore des patients pour lesquels le trajet maison-hôpital est toujours extrêmement dangereux. Leur vie est très souvent en danger. Et il faut la plupart du temps qu'ils soient accompagnés soit par une organisation comme la Croix-Rouge, soit par une force armée pour leur permettre d'atteindre sans encombre soit l'hôpital, soit la maison. Nous avons également beaucoup de cas de centres de santé qui sont pillés. Ce sont des centres de santé qui se trouvent déjà dans des sites extrêmement isolés où l'approvisionnement en médicaments, en matériel médical est déjà extrêmement difficile et qui, en plus de ça, sont victimes de pillages assez fréquents. Le transfert des blessés également est déjà mis à mal, une fois encore, par l'état des routes, par les conditions logistiques, si on peut dire, du pays, et qui sont aussi en danger sur la route, aux mains, si vous voulez, de groupes armés ou de gens, en tout cas, qui portent des armes sur la route.
Et à l'intérieur des hôpitaux, vous avez aussi connaissance de violences?
C'est un phénomène qui, bien sûr, existe. Un des problèmes que nous avons, c'est bien évidemment la présence d'armes dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile de contrôler. Il faut qu'il y ait des mesures gouvernementales qui interdisent l'entrée d'armes dans les hôpitaux. Il y a également le simple fait qu'il y ait des militaires, par exemple, qui soient blessés ou des membres de groupes armés, fait que leurs compagnons viennent aussi leur rendre visite. Donc tout ça peut créer d'une situation tout à fait normale, peut créer une situation difficile pour un centre de santé et pour un hôpital, notamment par rapport aux autres patients ou par rapport au personnel médical.
Alors, justement, devant toutes ces violences réelles ou potentielles, est-ce que la protection armée, d'une manière générale, est une bonne dissuasion?
Au niveau des solutions, des mesures concrètes qui peuvent être mises en place, il y a des mesures, si vous voulez, physiques. Alors là, on parle bien sûr de protection armée, de mise en place de périmètres de sécurité autour d'un hôpital, par exemple, de renforcer les contrôles à l'entrée pour éviter que des armes ne soient introduites. Mais il y a également le facteur humain qui est très important. C'est essentiel de la part du personnel médical et bien sûr également des autorités et de tous ceux qui portent les armes, des acteurs de la violence, que soit respectée la mission médicale, que les soins soient donnés de manière impartiale et neutre.
Au Mali, un responsable d'un hôpital de Tombouctou a dit qu'il n'avait pu travailler que parce qu'il était en contact permanent avec tous les groupes armés et bien intégré dans la communauté. Est-ce que vous avez connaissance de ce genre de faits ?
Par exemple, nous travaillons aujourd'hui à l'hôpital communautaire de Bangui, en République centrafricaine. On a plusieurs équipes chirurgicales qui travaillent presque 24 heures sur 24 pour faire face à l'afflux des blessés. Nous travaillons avec le personnel local de cet hôpital. Et bien sûr, la protection des patients, du personnel médical est partagée de manière régulière, que ce soit dans des interventions directes, pendant des réunions que nous avons avec ces groupes, ces forces armées, ou à l'aide de campagnes, par exemple, radiophoniques.
Mais ce n'est pas toujours réalisable que dans les faits, on vous laisse faire.
C'est là où le dialogue régulier, la compréhension de la mission médicale est fondamentale. Et il est en effet arrivé en République centrafricaine où nos équipes n'ont tout simplement pas pu évacuer certaines personnes.
Malgré sa volonté d'impartialité et de neutralité, la Croix-Rouge internationale peut parfois être empêchée de porter secours aux blessés. Et vous venez d'entendre Marie Servane Desjonquères du CICR. Avant de se quitter et en réponse à la question de Raphaël du Congo, sachez qu'un vaccin expérimental contre le palu est en cours d'évaluation dans un vaste essai clinique qui couvre 7 pays d'Afrique. Les résultats finaux sont attendus pour fin 2014. L'OMS a fait savoir qu'elle déciderait, en fonction de ces résultats, de recommander ou pas en 2015 l'utilisation de ce vaccin. Voilà, si vous voulez vous aussi nous écrire, je vous rappelle notre adresse, français@dw.de, et en attendant de vous lire, surtout prenez soin de vous.